Éphésiens. On va lire un verset en Éphésiens 5 et puis quelques versets en Éphésiens 4. Alors nous sommes ensemble pour faire des études sur l'enseignement biblique de ce qu'est la modestie selon la Bible, la parure biblique. Et j'aimerais lire Éphésiens 5, 10. Quelqu'un peut nous lire ce verset bien haut? Voilà. Merci. Ça, c'est l'attitude que nous voulons avoir envers chaque domaine de la vie chrétienne. Examinez ce qui est agréable au Seigneur ou efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. Ça, c'est le quête. Ça, c'est la quête du chrétien tout au long de sa vie. C'est la marque vraiment d'un vrai chrétien. C'est pas qu'il est ou qu'elle est toujours agréable au Seigneur, mais dans son fort intérieur, elle veut l'être ou il veut l'être. Il veut chercher ce qui est agréable au Seigneur. Ça devient sa préoccupation. C'est ce à quoi il pense. Il passe du temps à penser. Comment puis-je mieux plaire à mon Seigneur que je le fais même aujourd'hui? Et nous voulons appliquer cette idée même à notre tenue vestimentaire. Tout le monde a un code vestimentaire. Et donc les seules questions, c'est d'où vient-il, notre code? Qu'est-ce qu'il est? Il est formulé, il est façonné par quoi? Que communique-t-il? Et quel est l'effet de notre code vestimentaire? Mais quand nous cherchons à trouver la volonté du Seigneur, on découvre assez rapidement que Dieu ne donne pas de liste. Et nous pouvons en fait suivre une liste sans que cela change nos pensées, n'est-ce pas? Les fausses religions commencent toutes par des règles extérieures. Mais notre Seigneur veut que tout cela commence par un changement intérieur. Et nous rendons un très mauvais service si nous parlons de la modestie uniquement pour donner une liste de règles. Et donc, si vous pouvez peut-être tourner une page, trouver chapitre 4, voici un passage qui va utiliser l'image de vêtements, mais qui nous dit comment le changement doit s'opérer. Alors, qui peut lire Éphésiens 4, 19 à 22? 19 à 22. Oui, Geneviève, merci. Voilà, merci. Vous voyez là, à la fin du verset 21, vous avez été instruit à faire quoi? À vous dépouiller. Il doit y avoir un changement de parure. La parole vivante dit, vous avez appris qu'en communion avec lui, vous avez acquitté les vieilles hardes. Alors, j'ai dû chercher ce mot. C'est les vêtements pauvres et usagés. Les vieilles hardes de votre ancienne manière de vivre, à vous dépouiller de votre vieux moi d'avant votre conversion. Il faut enlever les vieux habits. Et puis regardez le verset 24. Qu'est-ce qu'il faut faire au verset 24? Il faut revêtir l'homme nouveau. Vous voyez, on est dans l'image des vêtements. Il faut enlever les anciens vêtements. Il faut remettre les nouveaux vêtements. Mais où est-ce qu'il faut commencer dans ce changement? On a sauté le verset 23. Quelqu'un peut nous lire le verset 23? Que dit le verset 23? Voilà. Il faut être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Comme notre traduction dit, il faut vous laisser complètement renouveler dans votre cœur et votre esprit. C'est là où ce changement doit se faire. Il faut amorcer une transition de nos pensées concernant même nos vêtements. Les vêtements ont beaucoup d'importance dans la Bible, mais pas forcément la manière dont nous pensons naturellement. Et donc, nous allons procéder par une série de principes. Et ces principes, je crois, vont nous amener chaque fois à regarder la Bible et même l'Évangile, la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Et la première chose, c'est ce que nous avons déjà vu, c'est que nos vêtements sont un signe donné par Dieu pour nous parler de notre passé, de notre présent et de notre avenir. Et ici, vous avez les trois choses ici. Notre passé, que nous avons perdu quelque chose. Qu'est-ce que nous avons perdu? Voilà, chaque fois qu'on s'habille le matin, c'est une preuve que nous avons perdu notre innocence. Et c'est une preuve aussi de notre honte actuelle, notre honte incontestable que nous avons. Nous le sentons. Et puis notre gloire future. Alors, réfléchissez avec moi un peu à Adam et Ève. Ils n'étaient pas créés pour rester nus pour toujours. Ils étaient destinés à être vêtus de gloire. Dieu lui-même, qui vit hors de temps, est décrit comme quelqu'un qui est vêtu de gloire et vêtu de lumière. Et ils auraient pu connaître le bien et le mal en rejetant le mal et en se rangeant du côté du bien. Mais lorsque l'épreuve est arrivée, la première fois que l'humanité est confrontée à ce choc entre le bien et le mal, le premier choc maintenant dans l'histoire du monde arrive, le bien et le mal présentés à l'homme, ils ont choisi de connaître le bien et le mal en se rangeant de quel côté? Ils se sont rangés du côté du mal, et en rejetant le bien. Et je pense qu'avec ce test, ils auraient connu le bien et le mal, quoi qu'il en soit. Dans un sens, c'était inévitable. Il y avait ce choc, cette confrontation entre deux options irréconciliables, deux visions du monde très opposées l'une à l'autre, deux affirmations même de vérité contradictoires. Dieu dit que ceci est la vérité. Satan dit que non, c'est le contraire qui est la vérité. Ils sont confrontés maintenant au bien et au mal. Ils vont expérimenter maintenant le bien et le mal en se positionnant d'un côté ou de l'autre. Et pour la première fois ici, ce premier test arrive et l'homme échoue à la première épreuve. C'est triste, non? Et lorsqu'ils ont péché, au lieu d'être recouverts de gloire, qui était leur destinée s'ils avaient réussi à l'épreuve, ils ont immédiatement ressenti le fait d'être irrémédiablement recouverts de honte. Ce premier sentiment qu'ils ont. Et les pagnes de feuilles conçues et produites par l'homme n'ont absolument rien fait pour réussir à couvrir la honte de l'homme et le protéger de l'œil omniscient de Dieu. Et donc, comme dit Romain, l'homme a été privé de la... Il a été privé de la gloire de Dieu. Et nous aussi. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en dépit du fait que l'homme a été privé de la gloire de Dieu par son péché, Dieu a fourni un vêtement pour couvrir leur honte. Et nous savons que dans l'Évangile, que l'homme est maintenant gratuitement justifié par sa grâce. Par sa grâce. Et c'est encore mieux que cela, parce que notre destinée, c'est quoi? Nous n'allons jamais revenir à la nudité du jardin, mais nous sommes destinés à être revêtus de gloire. Nous allons être même glorifiés. Et Dieu a ordonné les vêtements pour témoigner de son zèle, à couvrir notre honte et à nous revêtir de gloire. Il y a les deux choses. Il y a le bon et le mauvais dans les vêtements. C'est une reconnaissance du péché, de la honte, mais c'est aussi un symbole de la gloire que Dieu a pour moi dans l'avenir et que je partage déjà en Christ. Mais aujourd'hui, nous allons donc un deuxième principe que je trouvais très important. Il a ordonné le vêtement pour témoigner de son amour pour la beauté. Alors. Le prochain. Voilà, le vêtement d'abord est conçu. Vous allez suivre, vous pouvez me. J'ai besoin du prochain là. Le vêtement est conçu pour refléter l'amour de Dieu pour la beauté et la dignité. Peut-être que je suis allé trop loin. Refléter l'amour de Dieu pour la beauté. Et la dignité. Alors, on a plusieurs versets que je veux chercher. Donc, Malika, est-ce que tu peux trouver Exode 28 et verset 2? Et puis, qui d'autre se porte volontaire pour lire dans le psaume 45? Ok, Vani, tu vas lire plusieurs versets, je te dirai ça tout à l'heure. Et puis, Laurent, Ésaïe 52, verset 1. Et 53, verset 2, tout à l'heure. Et puis quelqu'un pour Ézéchiel 16, 9 à 14. Éphésiens 16, 9 à 14. Viviane. OK. Et puis Lydie, plus tard, Apocalypse 19, 7 et 8. OK. Donc, Ézéchiel 16, ouais. Alors, les vêtements sont plus utilitaire. On pourrait penser que bon, les vêtements, c'est uniquement utilitaire. C'est pour nous protéger du froid, du soleil peut-être, pour couvrir notre nudité. Ça, c'est utile. Mais bibliquement, en fait, les vêtements communiquent plus que ça. Ça communique l'amour de Dieu pour la beauté et la dignité. Et la dignité, selon le dictionnaire, c'est ce sentiment de valeur intrinsèque d'une personne ou d'une chose et qui commande le respect d'autrui. Il y a une valeur qui est communiquée même dans les vêtements. Alors, Exode 28, verset 2, parle des prêtres. Alors, tu peux lire le verset 2, Malika? Voilà. Ouais, c'est le verset 2, t'as lu jusqu'à la fin. Les vêtements sacrés. Voilà. Bon, tu peux arrêter là. On va pas lire toute la description. Mais il dit, verset 2, que Aaron va avoir des vêtements sacrés. Donc déjà, l'idée, c'est qu'ils sont mis à part. Et dans la NEG, il dit pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Des vêtements pour marquer sa dignité et lui servir de parure. Ou d'ornement dans l'armée, ou magnificence dans une autre traduction. La sommeur dit ceci, tu confectionneras pour ton frère Aaron des vêtements sacrés, un signe de gloire et de dignité. Hein, donc dans la pensée de Dieu, les vêtements communiquent gloire et dignité. Alors dans le psaume 45, nous avons une description du Fils de Dieu, Jésus-Christ, et puis de sa... La deuxième partie, c'est de son épouse, que nous savons est l'église de Jésus-Christ. Et d'abord, ça parle de Jésus-Christ. Tu peux lire le verset 3, Vanny? Voilà. Donc, déjà, la beauté du Fils de l'homme, de Jésus-Christ. Mais après, il y a une description de sa femme. Alors, tu peux lire les versets 9 maintenant à 15. Il lit le psaume 45, 9 à 15. Voilà. Merci. Donc, vous voyez cette description de cette reine dans toute sa parure et sa beauté. Ses vêtements font partie de sa beauté qui est décrite. Et donc, Ésaïe 52 maintenant, si vous voulez marquer les références, lis le verset 1, Laurent, tu peux lire verset 1, 52, verset 1. Voilà, donc il dit, revêt tes habits de fête. C'est l'image de joie qui est accompagnée même par un certain choix vestimentaire, parce qu'il y avait aussi des habits de deuil. Et c'était très visible, surtout à l'époque, si on faisait le deuil. Il y avait des habits de deuil. Et là, maintenant, c'est des habits de fête qu'il faut revêtir. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu a promis ça à son peuple. Mais pour nous promettre des habits de fête, comme nous aurons au ciel, qu'est-ce que lui-même a dû souffrir? Et alors, vous allez faire un peu des maths avec moi. Le chapitre après Ésaïe 52, c'est Ésaïe 53, bravo. Et puis, lis le verset 2 de 53, Laurent. Voilà, vous voyez le contraste? Vous allez revêtir des habits de fête. Vous allez être belle, Jérusalem, et célébrer Jérusalem. Mais mon serviteur va avoir ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Il va être rejeté, méprisé des hommes. Il va souffrir, en fait, la honte et la nudité pour que toi, tu ne souffres pas de ces choses. C'est une très très belle image qui est répandue dans la Bible. Le Seigneur souffre à notre place. Lui à ma place, vêtu de Christ et lui vêtu de mes péchés. Et puis en Ézéchiel chapitre 16, nous avons une histoire très très graphique de comment Israël a été trouvé par Dieu et il dépeint comme un bébé trouvé dans le désert, tout nu, dans son sang même, suite à sa naissance. Et Dieu le trouve comme ça. Le bébé ne peut rien faire pour lui-même. Et Dieu décrit sa bénédiction sur sur son peuple dans ces termes. Écoutez Ézéchiel 16, les versets 9 à 14. Viviane, tu peux lire? Oui, continue jusqu'au verset, à la fin de verset 14. Voilà, c'est fort, non, ces images, hein? L'éclat dont je t'ai orné. Ça, c'est la gloire que Dieu donne à cette orpheline. Laissée dans son sang, il le prend et maintenant elle est éclatante de gloire. Vêtue comme une reine et malheureusement, elle va, si vous lisez la suite, elle va se prostituer, il va dire, spirituellement. Et puis, on ne va pas le lire, mais la femme vertueuse n'est pas vertueuse, hein, de Proverbe 31, est vêtue et revêt sa famille de fin lin. Elle est connue aussi pour ça. Et puis, Apocalypse 19, 7 et 8. Nous arrivons ici à la fin de l'histoire. L'Église est réunie avec Jésus-Christ. Apocalypse 19, 7 et 8. Lydie? Voilà. Elle peut se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Et ses œuvres sont les œuvres juste des saints, mais il explique ailleurs que nos œuvres, en fait, nous sommes données de Jésus-Christ. C'est une image d'être revêtu aussi de Jésus-Christ. Mais on va le voir physiquement aussi, ça va se communiquer même dans la parure visible. Et Apocalypse 21, verset 2, il décrit le ciel comme ça, il dit, et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Donc, je crois que c'est assez de versets pour nous montrer que le vêtement dans la pensée de Dieu est plus que simplement utilitaire. Le vêtement communique, reflète l'importance et la dignité, comme avec les prêtres. Hein. Soit l'importance de la personne, soit l'importance de l'événement. Hein, parce qu'un prêtre, il portait ses propres habits chez lui, mais là, lorsqu'il va aller dans le tabernacle, lorsqu'il va aller offrir des sacrifices à Dieu, là, c'est l'événement qui donne de l'importance et il va le communiquer même dans ses habits. Alors, pourquoi est-ce que moi, je ne viens pas au culte dans un short ou dans un jogging? Ce n'est pas parce qu'il y a une règle ou une loi. Si on disait qu'il y a une loi qu'il faut que le pasteur vienne en costume et cravate, je serais tenté de venir sans ça le dimanche d'après pour prouver que ce n'est pas du tout le cas. Mais c'est parce qu'en France, et c'est différent dans différents pays, mais surtout en France, en Europe aussi, nous communiquons l'importance d'un événement par nos habits. Alors, si un événement est important dans le domaine politique, imaginons que le président va venir. Regardez sur les infos. Comment est-ce qu'il est habillé? Comment est-ce que les hommes qui sont là pour le rencontrer, comment est-ce qu'ils sont habillés? Lorsqu'on veut communiquer de l'importance d'un événement dans le domaine politique, on s'habille d'une certaine façon. Prenons le domaine économique, le business. Si on veut communiquer l'importance dans le domaine économique, si nous sommes hommes d'affaires, on va rencontrer d'autres hommes d'affaires, on va discuter d'un projet, etc. On va s'habiller d'une certaine façon. Pas parce que c'est une loi, mais parce qu'en France, on communique l'importance de l'événement, que ce soit politique, que ce soit économique, en s'habillant d'une certaine façon. Et pour les femmes, c'est la même chose. Et prenons le domaine, donc, social. Si c'est un événement important, un mariage, par exemple, vous allez voir, regardez les photos, les personnes vont s'habiller d'une certaine manière pour communiquer. Pourquoi? C'est attendu, c'est pas que c'est une loi, mais c'est attendu qu'on communique l'importance de l'événement. Alors, si c'est vrai dans le domaine politique, si c'est vrai dans le domaine économique, si c'est vrai dans le domaine social, quand nous venons pour adorer le Seigneur notre Dieu, qu'est-ce que vous pensez que je communiquerai sans parole à vous et aux autres si moi je viens, voilà, dans mon t-shirt, après avoir, je ne sais pas, tendu la pelouse ou autre chose, et je viens comme ça. On communique même par nos habits. Et c'est pour ça que nous avons, même en français, nous avons l'expression « endimanché ». On va s'endimancher, on va porter les habits de dimanche. Et c'est une bonne chose parce que, sachant bibliquement, nous avons vu ici que le vêtement n'est pas simplement utilitaire, je m'adapte à la culture française dans la manière que je communique, même dans mes habits, l'immense importance de ce qui se passe ici, dans ce lieu, le dimanche matin. Pensez à l'adoration du peuple de Dieu sous l'ancienne alliance, devant le temple, et toute l'importance, même jusqu'au détail du temple, même jusqu'aux grenades gravées sur le sommier des piliers, tout était important même dans ces détails. Nous sommes, le Nouveau Testament veut dire, nous sommes le temple de Dieu, individuellement, mais ensemble, en tant qu'Église, nous sommes le temple de Dieu. Le Saint-Esprit est là, et lorsque deux ou trois sont réunis en son nom, il est là. Ça, c'est, pour nous, ça, c'est le plus haut moment de la semaine. C'est l'adoration ensemble de notre Dieu. C'est pas juste, voilà, quelque chose qu'il faut faire si on a le temps le dimanche matin. Non, n'abandonnez pas la rencontre ensemble. C'est important pour nous. Et ce n'est pas qu'il y a une loi, ce n'est pas qu'il faut faire exactement pareil en Centrafrique qu'en Inde ou en France ou ailleurs, c'est que les vêtements sont conçus pour communiquer la dignité, pour communiquer la valeur, soit de la personne, soit de l'activité dans laquelle la personne s'engage. Vous voyez, cette pensée devrait nous influencer, même dans notre choix de vêtements. La Bible est très équilibrée à cet égard, et nous allons revenir plus tard avec plus de temps, mais nous voyons qu'il y a un amour de Dieu pour ce qui est beau, mais il y a aussi un rejet pour ce qui est ostentatoire. Hein, ça, c'est l'attitude ou le caractère de celui qui cherche à tout prix à attirer l'attention sur elle-même, sa situation. Les vêtements ne doivent pas être ostentatoires. On ne doit pas se démontrer comme ça par nos vêtements. En fait, c'est pour adapter, ce n'est pas pour se faire remarquer. Et donc, il y a parfois des choix, même que je fais, que je dis, ce serait peut-être trop, ça me fait remarquer un peu trop si je portais cela. C'est des pensées qui contrôlent même nos choix. Et puis deuxièmement, vous l'avez là, le vêtement est conçu pour exprimer extérieurement une beauté intérieure donnée par Dieu. Alors, qu'est-ce que je veux dire par ce deuxième point? C'est le fait que Dieu déteste lorsque les vêtements sont utilisés pour afficher à l'extérieur une image fausse de la réalité intérieure. Hein? Parce que les habits sont faits en fait pour refléter une réalité intérieure, pas pour cacher. Et nous, on utilise nos habits dans le monde pour en fait ce jeu de cacher, de révéler. Il y a un verset très important dans ce domaine, c'est Proverbe 11, 22, donc 1, 1, 2, 2. Qui peut nous lire Proverbe 11, 22? J'ai besoin d'une main. Oui, Kaina, merci. Et puisque... Attends, avant de lire, quelqu'un d'autre en Colossiens 3, 12, 14 et 16, il y aura trois versets. Colossiens 3, quelqu'un? Ok, Wilson. Et puis, il y aura un verset en 1 Pierre 3, 3 et 4. 1 Pierre 3, quelqu'un d'autre? Myriam, ok. Ok, Kaina, lis Proverbe 11, 22. Voilà. Vous avez l'image, là? Relis l'image, la première partie. Voilà. Un anneau d'or au grain d'un porc, dans le nez d'un porc. Ça vous paraît un peu bizarre? Un collier d'or autour d'un cochon. Il dit... Ça, gardez bien cette idée dans votre tête. Ça, c'est une belle femme, mais dépourvue de discernement. Les choses ne vont pas ensemble. L'anneau d'or est peut-être bien beau, mais ça ne va pas dans le nez d'un porc. Il y a quelque chose qui cloche, ça ne va pas. Et une belle femme dépourvue de discernement ne va pas non plus. Donc vous voyez, la Bible n'aime pas que nos vêtements cachent une réalité en fait néfaste et mauvaise à l'intérieur. C'est pour ça, comme on a dit au début, la Bible commence toujours et Dieu commence toujours par l'intérieur. Le changement, c'est dans notre esprit, le renouvellement de notre esprit. Romains 12 va nous dire, je vous exhorte d'en faire par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais quoi? Soyez renouvelés. Ah mince, tout d'un coup ça m'est échappé. Quelqu'un peut m'aider après? Par le renouvellement de votre intelligence. Merci, c'est ça, c'est pour ça. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On est transformés par le renouvellement de notre intelligence, le cœur, les pensées, l'esprit. Et c'est pour cela qu'il faut toujours commencer par l'intérieur. Colossiens 3, 12. Qui avait Colossiens 3? J'ai oublié. Wilson, merci. Voilà, pause juste là. Revêtez-vous. Hein? Revêtez-vous. Nous sommes dans l'image des habits. Mais c'est des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Vraiment, le matin, si vous vivez n'importe où, hein, il faut se dire, Seigneur, je dois revêtir la patience. Ce matin, aide-moi à revêtir la douceur. Il y a des personnes où, lorsqu'il y a des chocs, et entre chrétiens, il y a toujours des petits chocs, hein, parce que nous sommes pécheurs. Et parfois, il y a des choses qui piquent, c'est comme une dureté qui sort. Je me rappelle, une fois, je parlais avec quelqu'un ici même, ça c'est il y a quelques années déjà, et ma réaction immédiate était d'être dur. Et plus tard, ma femme m'a dit, je pense que t'as réagi un peu dur. Ça, c'est pas naturel. On se réveille pas revêtu de douceur, d'humilité, de bonté. Il faut se revêtir de ces choses. Mais c'est à l'intérieur. Et puis, lis le verset 14, Wilson. Voilà. Vous voyez, encore, revêtez-vous, mais ici, par-dessus tout, de l'amour. Parce que ça, c'est le lien qui lie tout ensemble. Comme vous avez un paquet, et maintenant, le ribbon, maintenant, qui va tout garder ensemble, c'est l'amour. Et nous savons, la Bible dit, si vous avez l'amour, vous allez garder toute la loi, en fait. Parce que la loi se résume dans ce mot. Voilà, et puis verset 16, je ne vais pas lire, mais que la parole de Dieu habite en vous. Hein, c'est l'intérieur. Et puis, 1 Pierre 3 et 4. Myriam. Voilà, vous voyez, ce n'est pas cette parure extérieure qu'il faut chercher. Et là aussi, nous reviendrons, mais ce n'est pas qu'il dit que ces choses sont interdites, hein, parce qu'il dit ni les habits qu'on revêt. Donc, si vous dites c'est interdit, il faudrait dire que les habits sont interdits. Mais il veut dire, en fait, ce n'est pas là l'importance. Ne passez pas tout votre temps devant le miroir de la salle de bain, hein, mais focalisez sur le miroir de la parole de Dieu. C'est essentiellement ça qu'il est en train de dire. La parure intérieure est cachée le cœur, dans le cœur. Et il dit à la fin, je trouve que c'est très très beau, c'est un grand prix devant Dieu. Hein, et là, il parle spécifiquement aux femmes. Et les femmes de cette église, je vous assure, si vous travaillez sur ça, Dieu, c'est un grand prix pour lui. Il le valorise. La véritable beauté modeste n'est pas superficielle, mais bien plus profonde. C'est un sujet du cœur. Le cœur du sujet, c'est le sujet du cœur. Et nous ne devons pas relâcher notre engagement vers la personne cachée du cœur. Donc, si Jésus n'est pas le roi de nos choix vestimentaires, il se peut qu'il n'est pas du tout le roi ou le seigneur de notre vie. Nous sommes appelés à le suivre dans tous les domaines. Mais nous ne commençons pas par des règles. Nous commençons par l'homme intérieur. Nous devons... Et après, nous choisissons de nous habiller. Nous faisons les choix que nous faisons. Parce que chacun est obligé de faire des choix. Hein. On ne peut pas éviter. Mais nous le faisons parce que nous chérissons Jésus-Christ par-dessous tout. C'est ça. J'ai dit, mon choix, c'est parce que j'aime Jésus-Christ. Et je m'habille pour lui, avant tout. Pas pour se faire voir des hommes. Et on en parlera plus tard, mais l'homme est créé pour vouloir regarder, et l'homme est créé pour vouloir être vu. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Mais on se dit, je vais être d'abord vu par Jésus-Christ et je veux plaire à lui. Il regarde même plus loin que mes avis, il regarde. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais lui regarde. Il regarde à ça aussi, hein, mais il regarde plus loin jusque dans mon cœur. Et ça me ferait très mal au cœur de lui déplaire. Voilà. Donc, Nous avons vu deux principes ici. Les vêtements, c'est pour montrer le zèle de Dieu pour couvrir notre honte et nous revêtir de gloire. Et les vêtements aussi, c'est là pour démontrer l'amour que Dieu a pour la beauté, la dignité et ce futur que nous avons promis pour nous. Nous allons partager à la dignité et à la beauté de Jésus-Christ. Voilà, on arrête là, on se salue les uns les autres, et puis on va chercher des enfants et chanter ensemble.